Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, on m'a posé une question. Monsieur l'abbé, vous nous donnez l'exemple d'Abraham comme exemple de vie chrétienne parfaite, mais que faites-vous pour les pauvres pécheurs qui ne se sentent pas capables d'atteindre les hauteurs d'Abraham? Cela me montre que je dois vous parler de l'alliance que Dieu a faite avec les hommes à travers Abraham. Ce que je prêche à ceux qui ne se sentent pas capables d'atteindre les hauteurs de la vie chrétienne parfaite, c'est que Dieu a fait une alliance avec eux aussi, car il a fait une alliance avec tous les hommes. Et cela est valable également pour tous les chrétiens qui se sentent désemparés dans la situation actuelle. La première chose qui décourage le pécheur, c'est qu'il n'ose croire que les merveilleuses promesses de Dieu soient aussi pour lui. Et donc mon premier devoir, mes bien chers frères, est de révéler ces promesses de Dieu. Ensuite, de donner les moyens de les obtenir. Et, comme je vous l'ai déjà dit, l'histoire d'Abraham est excellente pour cela. Dieu a fait à travers lui une alliance avec tous les hommes, une alliance éternelle. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il le fait dans des conditions qui sont très semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui. Notre monde est revenu à l'athéisme de l'époque d'Abraham, et même il est revenu au vice du monde d'Abraham, c'est l'époque de Sodome. Or, il faut bien l'admettre, les sodomites dominent aujourd'hui à Rome. Et c'est un deuxième sujet de découragement. Comment peut-on se sanctifier au milieu des sodomites? D'autant plus que, à l'époque d'Abraham, ce n'était que le peuple d'une ville qui était sodomite. Aujourd'hui, ce sont les chefs de l'Église et des nations. Alors, il y a plusieurs choses à vous montrer, plusieurs leçons à tirer de cela. La première, c'est qu'il est possible de vivre saintement auprès des sodomites, comme le fit Abraham. La deuxième, c'est qu'il est possible de vivre saintement au milieu des sodomites, comme le fit Lot. Lot certainement était beaucoup moins parfait qu'Abraham. Nous avons vu qu'il avait choisi les terres les plus riches et que c'est pour ça qu'il s'est établi au milieu des sodomites. Mais enfin, nous allons le voir. D'abord, Lot a gardé la chasteté, la vie chrétienne et même une vie chrétienne relativement parfaite. On le voit à ce qu'il exerce les œuvres de miséricorde. Et les œuvres de miséricorde sont le signe d'une charité vraie. Mais lui aussi arrivera à une perfection moindre que celle d'Abraham, mais à une réelle perfection. Et puis les serviteurs d'Abraham, même les étrangers. Je vous en ai parlé à propos de la circoncision. Quand Abraham demande à ses serviteurs, y compris aux étrangers, je le rappelle, qu'ils doivent se faire circoncire, il est évident qu'il ne commence pas par là. Parce que les serviteurs auraient répondu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'autant plus qu'il y avait la circoncision en Égypte, et du coup, les serviteurs auraient cru que Abraham les emmenait vers les idoles égyptiennes. Non, il est évident qu'Abraham leur a dit « J'ai reçu une promesse de Dieu, une promesse d'alliance avec Dieu. Si vous me faites confiance, alors vous accepterez ce signe de l'alliance qu'est la circoncision. » Abraham n'a pas tout dévoilé, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est l'ancienne alliance par opposition à la nouvelle. Dans l'ancienne alliance, les choses ne sont pas totalement expliquées. Mais l'essentiel est dit. Mais n'anticipons pas, première partie de ce sermon, ce qu'est l'alliance de Dieu avec les hommes. Mais bien, chers frères, ce que je vous prêche là, c'est une autre manière de vous prêcher la charité et surtout de la mettre en valeur. Car l'alliance de Dieu avec les hommes, C'est une amitié, une alliance, une amitié. Et cette amitié avec les hommes, cette alliance avec les hommes ne peut se faire que dans la charité. C'est-à-dire par la présence aimée et aimante du Saint-Esprit en nous. Il est important de parler de cette alliance, et pas seulement de la charité, bien justement parce que c'est par là que Dieu a commencé. Il n'a pas tout dévoilé d'un coup, mais il leur a promis qu'il les aimerait et qu'ils seraient aimés en retour. C'est ça l'alliance. Et ce que l'alliance ajoute à la charité, c'est la promesse que Dieu offrira toujours la charité à tous les hommes. Donc aux saints, comme Abraham, aux pécheurs, aux étrangers, à ceux qui sont découragés. Nous verrons dans l'épisode de Sodome que les gendres de Lot, à eux aussi, le salut est proposé. Lot, de la part des anges, vient proposer le salut à ses gendres en leur disant « sortez de la ville ». Sortez de la ville, c'est donc le salut du corps, ne pas mourir. Et puis, évidemment, ça va être le salut de l'âme. Et les gendres vont refuser. Donc ce n'est pas Dieu qui est en défaut par rapport aux pauvres hommes, aux pécheurs, à ceux qui sont plus ou moins découragés. C'est la charité, la confiance en Dieu qui manque à ceux qui ne répondent pas à cette offre de Dieu. Ces hommes-là ne sont pas exclus du salut, loin de là, au contraire. Ce sont eux qui n'en profitent pas. Alors mes bien chers frères, puisque vous m'écoutez, c'est que vous voulez en profiter. Quant à ceux qui ne veulent pas en profiter, eh bien, vous ferez auprès d'eux ce que Lot a fait, vous le leur proposerez, et vous essaierez de trouver tous les moyens de les convaincre d'accepter. Nous avons eu récemment un baptême d'une femme de 93 ans. Une bonne chrétienne s'était liée d'amitié avec elle lorsqu'elle avait 18 ans, je crois. Et cette femme devait avoir beaucoup de qualités puisqu'elle a compris la valeur de cette amitié. N'empêche que elle n'était pas baptisée, elle n'avait pas la foi, mais du tout, pas du tout la foi. Et elle en était fort éloignée. Cette bonne chrétienne a mis 10 ans à convaincre cette femme de se faire baptiser. Bien, revenons à l'alliance. Non seulement Dieu fait une alliance dans la charité, c'est-à-dire dans le Saint-Esprit, non seulement il promet qu'il offrira toujours la charité aux hommes, mais troisièmement, il ajoute que les hommes feront avec lui un grand peuple qui sera son peuple. Mais bien, chers frères, ce peuple, c'est le ciel. C'est cela le plus important à comprendre. Dieu promet le ciel à tous les hommes et il promet que ce ciel sera une magnifique famille, un magnifique peuple. Ce sera l'héritage de tous les fils de l'Alliance. Je n'insiste pas, c'est quasiment à toutes les pages de l'Évangile, l'héritage. C'est pourquoi Abraham eut la révélation de la Sainte Trinité lors de la visite des anges. C'est ce que la plupart des pères affirment. Si nous ne mettons pas la béatitude éternelle dans la vie d'Abraham, sa vie n'a plus aucun sens. Et enfin, dans peu de temps, Abraham aura la révélation que cette alliance sera scellée dans le sang du Christ. Je résume cette première partie. L'alliance contient 3 éléments. Premièrement, la charité dans le Saint-Esprit. Deuxièmement, la cité de Dieu, le peuple. Troisièmement, elle est établie par le sang du Christ. Et je conclus cette première partie. L'alliance, c'est l'Église, et l'Église, c'est l'Alliance. L'Église sur la terre et l'Église au ciel. Je pourrais m'en tenir là. C'est ce qui fut plus ou moins révélé aux serviteurs d'Abraham, et cela leur a suffi. Mais nous ne sommes pas des serviteurs d'Abraham, nous sommes nés après la naissance du Christ, et il est absolument nécessaire que je vous révèle la suite qui a été révélée à Abraham, parce qu'elle nous concerne. Et donc, deuxième partie de ce sermon, pourquoi 2 alliances si l'alliance est unique ? L'alliance est essentiellement spirituelle, puisqu'il s'agit de la charité. Mais pour arriver à cette union spirituelle, il faut des étapes. La première étape est pédagogique. C'est l'ancienne alliance, elle s'établit par des figures qui mènent vers le Christ. Des figures, c'est-à-dire des images qui annoncent. Nous le verrons plus tard avec le sacrifice d'Isaac par Abraham, qui annonce le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et qui y fait déjà entrer. C'est un peu comme des jeunes enfants qui assistent à la messe avant d'avoir l'âge de raison. Ils ne connaissent pas encore la vérité sur Dieu. Ils commencent cependant déjà à entrer dans le mystère à travers les rites si expressifs. L'encens, les génuflexions qui manifestent l'adoration du grand Dieu, les ornements, les chants. Vous avez des enfants qui, à 3 ans, chantent « Gloria in excelsis Deo ». Ils ne connaissent pas encore le mystère qu'il y a derrière ces paroles, mais la porte commence déjà à s'ouvrir devant eux. C'est pourquoi il est important que les jeunes enfants assistent à la messe chantée et qu'on leur apprenne à s'y tenir avec respect. Un enfant ne joue pas au cube, il ne mange pas du chocolat pendant la messe chantée. Sinon, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Vous me direz, mais à cet âge-là, ils ne sont pas capables de se tenir sages. C'est pas vrai. Si les parents prennent les bons moyens, les enfants sont captivés par la splendeur du culte. La deuxième alliance, la nouvelle et éternelle alliance, qui est conclue au moment de la mort de notre Seigneur sur la croix, n'est plus une annonce, elle donne le Christ avec sa divinité dans la Sainte Communion. C'est cette alliance-là qui est conclue avec les enfants qui font leur première communion. Mais dans cette alliance, le Christ demeure cependant voilé sous les apparences eucharistiques, de même qu'auprès des apôtres, il était voilé sous les apparences de son corps, apparences réelles bien entendu. Et donc la troisième étape, ce sera le ciel, lorsque notre union au Christ se fera sans aucun voile. Cependant, ce n'est pas une troisième alliance, c'est simplement un dévoilement. Parce que celui qui communie à la messe, le ciel ne lui ajoute rien, simplement le Christ est dévoilé, révélé. C'était la deuxième partie et elle était importante parce que je ne pouvais pas cacher ce trésor de la deuxième alliance, à savoir le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné sur la croix. Et pour nous qui vivons aujourd'hui à l'époque du christianisme, même si ce christianisme est bien abîmé, c'est un encouragement extraordinaire de savoir que Dieu ne nous parle plus par Abraham ou par les prophètes, mais qu'il nous parle par son Fils unique. C'est un encouragement extraordinaire de savoir que non seulement Dieu nous parle par son Fils unique, mais qu'il nous prend par la main. Il ne nous conduit plus au ciel à travers Abraham, il nous conduit au ciel directement par le Verbe éternel. Et maintenant, troisième partie de ce sermon, qui est très d'actualité, pourquoi Abraham a-t-il été établi par Dieu à l'époque de Sodome et non pas à l'époque de Jésus-Christ? Est-ce parce que Dieu ne voulait faire d'Abraham qu'un petit saint, réservant à l'époque de Jésus-Christ de faire des grands saints? Non, nous avons vu au contraire que saint Jean Chrysostome et tous les pères de l'Église disent qu'Abraham est un modèle pour les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, pourquoi Dieu a-t-il fait vivre Abraham avant Jésus-Christ et en plus à l'époque de Sodome, de Gomorre et dans un pays païen? Pour en faire un plus grand saint, justement, en le faisant vivre de la foi pure, de l'espérance pure en ne s'appuyant que sur Dieu et en ne vivant que pour lui, Dieu. Dieu purifie et élève la foi d'Abraham. Abraham longtemps sans descendance alors que Dieu le lui avait promis. Cela s'est fait pour éprouver la foi d'Abraham et qui dit épreuve, dit preuve et récompense. De même le sacrifice d'Isaac, lorsqu'Abraham a enfin une descendance, Dieu lui demande de la sacrifier cette descendance. Et nous voyons là que puisque Dieu donne toujours la grâce qui est largement suffisante pour répondre à ses demandes, Dieu donne à Abraham une grâce à la mesure du sacrifice qu'il lui demande, il lui donne une grâce de saint, de grand saint, de très très grand saint. Et donc, lorsque nous, Dieu nous met dans les ténèbres du monde d'aujourd'hui, au milieu du vice du monde d'aujourd'hui, c'est pour faire grandir notre foi. Il y a une épreuve, c'est vrai, mais du moment qu'il y a une épreuve, il y a une grâce surabondante pour être des grands saints au milieu des épreuves. Mais bien, chers frères, je n'oublie pas la question du début qui m'a été posée. Vous parlez des grands saints, mais que faites-vous pour les pécheurs tout juste convertis? Eh bien, justement, je dis que si Dieu les met dans l'épreuve aujourd'hui, dans une église qui est guidée par des sodomites, dans des nations qui sont guidées par des idolâtres, c'est qu'il veut élever leur foi, la purifier d'abord, la purifier parce qu'au contact de ce monde, hélas, notre foi quelquefois se ternit, elle est trop matérielle, elle s'appuie trop sur les choses d'ici-bas, et justement, non seulement il veut élever notre foi après l'avoir purifiée, mais il veut également élever notre confiance en Dieu. De même que Dieu demanda à Abraham de sortir de sa famille et de son pays, à nous, il nous demande, d'une certaine manière, de sortir également. C'est pourquoi je vous ai déjà parlé de la communion spirituelle. Le bon Dieu nous demande de sortir de la communion sacramentelle, mais pour mieux nous faire entrer dans la communion spirituelle, sinon cela n'aurait aucun sens. Mais bien, chers frères, ne croyez-vous pas qu'Abraham, lors du sacrifice d'Isaac, s'est uni à Dieu intérieurement beaucoup plus que la plupart des chrétiens, et même peut-être que des grands saints, lorsqu'ils reçoivent, sous les apparences eucharistiques, le corps, le sang, l'âme et les divinités de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas le tout de recevoir, encore faut-il s'unir. Alors si vous n'avez pas la communion sacramentelle, eh bien faites comme Abraham. Et si vous croyez ne pas en avoir la possibilité, demandez à Dieu de vous la donner, ou plutôt, soyez persuadé que Dieu vous a déjà offert sa grâce avant de vous demander l'épreuve. Donc Dieu a voulu élever la foi d'Abraham, il a voulu élever son espérance, c'est-à-dire sa confiance en Dieu, il a voulu augmenter sa charité, la rendre brûlante. Abraham ne vit que pour Dieu. Après être sorti de son pays et de sa famille, il marche en la présence de Dieu. Par conséquent, mes bien chers frères, nous allons, dans les sermons suivants, tirer les leçons de tout cela. Et nous allons apprendre à vivre comme Abraham, comme Lot. Les suivants de loin peut-être, c'est vrai, de loin, mais les suivants quand même. Nous allons découvrir les vertus chrétiennes d'Abraham, sa piété, son humilité, ses œuvres de miséricorde, dont je vous ai déjà parlé, sa vie de famille, dont je vous ai déjà parlé, l'éducation d'Isaac, ses rapports avec le prochain. Et puis nous allons apprendre, nous aussi, à être père, comme lui, non pas père d'un grand peuple, cela lui est réservé, mais père, malgré tout, pour transmettre ses trésors que nous avons reçus. Et quand je dis père, je m'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, car dans ce domaine, il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. La même alliance a été proposée aux uns et aux autres, aux femmes et aux hommes. Il n'est que de voir la très sainte Vierge. C'est elle qui est entrée le plus loin dans l'alliance de Dieu. Certes, la femme est l'aide de l'homme dans la famille, mais en ce qui concerne l'alliance dans la charité, dans le Saint-Esprit, dans la confiance en Dieu, la femme et l'homme sont au même niveau. Entrons dans cette alliance par Marie, co-rédemptrice et médiatrice de toute grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.